Alors avec Nicolas, pas de surprise. Enfin, en tout cas, ça m'arrive d'en faire. Mais les prédications que j'aborde depuis quelque temps, c'est par rapport aux cinq valeurs que nous mettons en place au sein de l'Église. Alors, j'ai déjà parlé trois prédications sur une Église qui exalte Dieu et son Fils Jésus-Christ. J'ai abordé le sujet sur une Église qui s'édifie, c'était la prédication précédente. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble une Église qui s'encourage. Alors, après avoir bien réfléchi à cette prédication, à cette exhortation que je vais vous apporter ce matin, il y a des fois c'est assez fluide. Vous savez, il y a des thèmes au bac, les jeunes, quand on tombe dessus, il y a le crayon et le stylo, il part tout seul. Et ils sont très contents une fois que c'est terminé cette affaire, on n'en parle plus, on verra la note après. Mais en prédication, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile. Parce que quelque part, on doit un petit peu plus survoler dans la parole de Dieu et on doit se rappeler certaines choses qui se trouvent un petit peu, non pas uniquement dans un texte ou dans un thème, dans la parole de Dieu, mais il faut qu'on regarde un petit peu dans une vue générale, et c'est un petit peu plus long et un petit peu plus difficile. Mais rassurez-vous, j'ai terminé. Attends, mais j'ai terminé cette exhortation de ce matin. J'ai même pris le temps pour aller chercher une petite histoire que je voudrais vous raconter ce matin. C'est un enfant qui s'appelle Jamil. Alors il aurait pu s'appeler Noé, Marc, Jean. Il aurait pu porter un autre nom, un autre prénom. Mais il s'appelle Jamil. Jamil se préparait pour jouer le rôle dans une pièce de théâtre dans son école. Jamil voulait faire partie de la pièce, même s'il n'était pas sûr d'être choisi par la maîtresse. Mais un jour, la maîtresse a décidé de distribuer les rôles à ses enfants. À midi, comme convenu avec la maman, elle alla chercher Jamil à l'entrée de l'école. Jamil courut vers la maman, vers sa maman, les yeux pétillants de fierté et d'excitation. Devine quoi, maman ? On m'a choisi pour applaudir et pour crier dans la salle. Il n'y a pas de plus belle leçon, n'est-ce pas, dans la vie? Il n'y a pas non plus de petit rôle avec le Seigneur dans son service. Cette histoire m'a fait rappeler et m'a fait penser à l'encouragement. Et cet encouragement, cet enfant le manifeste dans le fait qu'à un moment donné, la maîtresse l'a choisi à faire peut-être quelque chose que lui-même ne s'attendait pas du tout à faire dans son rôle dans une pièce de théâtre. On m'a choisi pour applaudir et pour crier. Alors, je ne sais pas pourquoi le Seigneur vous a placé dans cette église. Bien souvent, on le sait parce que on discute, on parle. Le Seigneur m'a donné le talent d'une voix, alors bien sûr, je voudrais la manifester au travers des choristes ou de l'instrument de musique ou d'autres choses que le Seigneur vous a mis sûrement à cœur. Mais est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur de vous encourager les uns les autres? Là, c'est quelque chose quand même d'un peu plus difficile, il faut bien l'avouer. Il y a certaines personnes qui savent crier, il y a certaines personnes qui savent applaudir, mais encourager une autre personne quand elle passe par un moment difficile dans sa vie, c'est pas facile. Et je pense que le Seigneur nous demande, bien sûr, de nous encourager les uns les autres. dans une église, on a besoin de s'encourager les uns les autres. Et si nous avons défini cette valeur au sein de l'église, c'est que quelque part l'église de Marolles doit prendre au sérieux cette affaire de s'encourager les uns les autres. Selon la définition du dictionnaire, le courage est la force de caractère ou de fermeté morale qui permet d'affronter une situation difficile, dangereuse et éprouvante. Voilà un petit peu la définition des dictionnaires que nous avons dans notre monde sur le courage. Mais à l'inverse, le découragement consiste à ne plus avoir la force ni la volonté de réagir ou de perdre toute motivation et toute envie de faire face à ses responsabilités et à ses obligations. À l'inverse du courage qui est une force de caractère, le découragement est tout le contraire. De manière générale, une personne découragée mûrira des pensées négatives, des propos personnels sur soi-même, sur les autres, sur son environnement, sur son avenir et parfois même vis-à-vis de Dieu. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Eh oui, quand on est découragé, même Dieu vient dans notre cervelle et bien souvent nous sommes des accusateurs. Alors le vrai remède, c'est renverser la situation pour rétablir un équilibre de correction dans notre vie, dans notre vision. Eh bien, nous devons comprendre cet aspect de perspective que nous avons à mener en tant qu'Église dans notre vie de tous les jours. Nous allons voir aujourd'hui si nous pouvons corriger cette perspective. Et je pense qu'on peut corriger cette perspective. Vous avez peut-être des idées de comment encourager un frère ou une sœur dans une église. Bien, je voudrais vous montrer quelques textes dans la parole de Dieu et je vais faire un petit survol, si vous voulez bien, de certains passages que je trouve dans la parole de Dieu. Tout d'abord, j'ai choisi une église dans le Nouveau Testament. Elle avait un message d'encouragement. Elle avait corrigé sa perception du découragement. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre. C'est l'église de Thessalonique. Alors je vous rassure, on ne va pas lire la première et la deuxième épître, quoique très encourageante de les lire. Mais les Thessaloniciens avaient compris que Jésus-Christ devait revenir un jour les enlever au ciel. C'était une affaire qui était réglée dans leur cœur. Ils avaient une joie dans leur cœur que un jour Jésus allait revenir. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, ils avaient compris ça, il n'y avait pas de problème. Mais ils avaient un petit problème dans leur cœur avec la destinée de ceux qui partiraient avant le retour de Jésus-Christ. Et comme ils avaient un petit problème avec cela, ils avaient un petit souci dans leur cervelle, eh bien, l'apôtre Paul va les encourager, puisque dans le texte, il est dit à un moment donné, encouragez-vous mutuellement de ces paroles. Donc, quelque part, les Thessaloniciens devaient s'encourager. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un message un peu simple, cette affaire. C'est-à-dire que ces croyants qui avaient compris que Jésus-Christ les avait sauvés, et ils revenaient un petit peu dans des questions, un petit peu sollicités par rapport à la mort, c'est un petit peu simple. Mais en même temps, les premiers chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus-Christ au début, eh bien, ils sortaient d'un paganisme primaire. Et à un moment donné, eh bien, il y avait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas clairement et ils avaient besoin que Paul leur rappelle cet enseignement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne soyez vous affligés par contre les autres qui auront point d'espérance. L'apôtre Paul leur rappelle tout simplement, ne soyez pas dans la tristesse. Il y a une espérance, même pour ceux qui sont morts, qui ont accepté Jésus-Christ, qui sont morts à un moment donné. Et Paul va leur expliquer, enlevez votre chagrin de votre esprit, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Chapitre 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Et il va leur expliquer encore une fois et une dernière fois, verset 17 du même chapitre, les morts en Christ ressusciteront premièrement, les assure-t-il, puis nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec la nuée, avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas merveilleux? Je me dis que l'apôtre Paul voulait que cette église s'encourage les uns et les autres à quoi? À la venue glorieuse de Jésus-Christ, à son retour glorieux pour la deuxième fois ici-bas sur cette terre. Et l'apôtre Paul leur dit, ne vous inquiétez pas. Encouragez-vous avec ces paroles mutuellement, vous exhortant mutuellement avec ces paroles. Et je me dis, mais combien d'églises aujourd'hui s'encouragent avec la venue de Jésus-Christ? La Bible dit que le moment où Jésus-Christ va revenir, les gens vont continuer à vivre comme à la période de Noé. C'est-à-dire que les gens vont continuer à vivre leur vie, à se marier, à avoir des enfants, à avoir, je dirais, une espérance, pas forcément en Jésus-Christ, puisque le texte nous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra-t-il, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur cette terre? Cela montre bien que les temps sont vraiment difficiles aujourd'hui, et qu'au plus qu'on va avancer, ça va être encore plus difficile. Vous savez, toutes les lois qui sont aujourd'hui faites par notre État, à l'heure actuelle en France, va à l'encontre de Dieu. Et je pense que si vous prenez conscience un instant que depuis une décennie, toutes les lois qui sont prises par le gouvernement vont à l'encontre de la parole de Dieu, ça me fait quand même réfléchir. Dieu ne peut pas bénir un pays, un État qui va contre lui. Et toutes les lois qui sont prises aujourd'hui vont à l'encontre de la parole de Dieu. La PMA. Et vous allez voir que d'autres lois vont venir, peut-être demain. Alors je ne suis pas prophète, je vous rassure, dans le sens de deviner l'avenir. Quoique des fois on voit des choses, des fois qui me surprennent. Se marier avec un arbre, vous allez rigoler. Mais il y a des gens qui se marient avec des arbres. Se marier avec un animal, vous allez dire, Nicolas, mais arrête de dire des bêtises pareilles. Mais il y a des gens qui se marient avec des animaux. L'animal est devenu presque une idole chez certaines personnes. Et je me dis, mais vous pouvez imaginer quand une nation va à l'encontre de Dieu, à un moment donné, Dieu va quand même rappeler de l'ordre dans cette nation. On dit souvent qu'en France tout va mal. Mais je me dis, si simplement notre État prenait conscience qu'il y avait un Dieu au-dessus de sa tête, peut-être que certaines lois seraient prises peut-être un peu plus au sérieux. Oui, Paul nous encourage, au travers de l'Église de Thessalonique, Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que nous sommes préparés à ça? Est-ce que nous prenons vraiment au sérieux que Jésus-Christ revient bientôt? Alors, il n'est pas dit dans la Bible que vous devez vous installer sur un fauteuil et que vous attendez patiemment le retour de Jésus-Christ, parce qu'il y en a certains qui ont cru ça à un moment donné et ça a fait du n'importe quoi, ils ont pensé n'importe quoi. Mais la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt et c'est au présent. Donc Jésus pourrait revenir ça peut-être vous serez joyeux de plus entendre ma prédication dans 2 secondes, parce que Jésus-Christ va revenir, gloire à Dieu. J'aurais plus à prêcher dans le ciel. Jésus-Christ va me prêcher, mais moi j'aurais plus à prêcher dans le ciel et à préparer une prédication. Mais imaginez que Jésus-Christ revienne dans 1 heure. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à cela? Moi, c'est une question que je me pose. Pas régulièrement. Mais je me dis, est-ce que je suis prêt à l'enlèvement de l'Église? Est-ce que quand je vais me présenter devant le Seigneur, ma conscience sera pure et propre, nickel, comme. Il n'y a pas une interférence entre moi et Dieu. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Parce que la Bible et l'apôtre Paul a encouragé l'Église que le Seigneur va revenir bientôt. Il suffit de lire le livre de l'Apocalypse pour nous le rappeler, que le Seigneur va revenir. Il a dit, il a promis, et il reviendra. C'est une parole de vérité que nous devons nous encourager les uns les autres au travers de ces paroles. Deuxième pensée par rapport à la première, c'est des versets dans la Bible avec des encouragements. Alors, bien sûr que on pourrait dire, mais il n'y a aucun verset dans la Bible qui n'est pas un encouragement pour les autres. Oui et non, il y a des versets personnellement, pour moi, ne sont pas des versets. Comme vous savez, les listes de certains noms juifs, je me dis à un moment donné, bon, je vais tourner la page, on verra si dans notre page il n'y a pas un nom bien grec, hein, ou bien latin, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des noms qui ne sont pas dans notre cervelle à un moment donné. Mais voilà, le Seigneur a fait toute la Bible, et la Bible est inspirée par le Seigneur, mais il y a des versets qui sont là pour nous encourager. Il y a des versets, vous savez, quand on les lit, quand on en prend analyse de ces versets, eh bien, on s'aperçoit que ils parlent plus que les autres. Ils sont là pour nous interpeller. Et je pense que si le Seigneur les a mis, ces versets, dans sa parole, c'est que quelque part, de temps en temps, il a besoin de nous rappeler certaines choses. Et nous avons besoin de nous les rappeler, certaines choses dans notre vie. Le livre des Proverbes nous dit ceci, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Et je me dis, qui n'a pas eu à un moment donné ce moral dans les chaussettes? Comme on dit aujourd'hui, vous savez, il y a des fois où ça ne va pas. Il faut dire la vérité. Quand on est enrhumé, ça ne va pas. Quand on a la grippe, ça ne va pas. Quand vous avez la diarrhée, restez à la maison. Ne venez pas la porter ici, restez chez vous. Mais il y a des fois, vous savez, on a le moral vraiment littéralement dans les chaussettes. Il y a des fois où la vie elle est tellement faite ce qu'elle est faite que à un moment donné, quand on a un ami qui est dans la famille, qui est malade, un décès d'un ami intime, une personne qu'on aime que nous ne voyons pas venir à l'évangile, un chef qui nous casse littéralement les pieds tous les jours, un collègue dans le travail qui nous embête constamment pour des petits détails. Vous savez, le moral dans les chaussettes, c'est déjà arrivé de tout temps et ça arrivera encore demain. Mais Salomon rappelle que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Les bonnes paroles, frères et sœurs, sont dans la parole de Dieu. Ce monde, comme je le disais, va en perdition. Si le Seigneur a mis le livre des Proverbes, c'est que nous devrions nous en inspirer. Regardez Proverbes chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Waouh! Une parole qui encourage est un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Il ne devrait plus y avoir de conflit entre les époux et épouses. Parce que si vous aimez votre époux ou votre épouse, vous allez lui apporter une parole qui est agréable comme un de miel. tout irait mieux dans nos églises, tout irait mieux dans nos foyers, avec nos enfants. De dire à votre enfant, tu es un doux rayon de miel. Que quand tu dors. Quand tu dors, ouais, tu es un doux rayon de miel. Mais quand tu ne dors pas, tu n'es pas salutaire, hein, pour mon âme et pour mon corps. Hein. Mais voyez-vous, le Seigneur nous demande de nous encourager, de nous exhorter, de prendre l'affaire au sérieux. Et je suis convaincu que dans la vie de tous les jours, si on prenait ces choses-là au sérieux, eh bien, nos vies peut-être changeraient. Et en même temps, il y aurait peut-être moins de conflits pour certaines situations qui sont parfois nauséabondes, qui nous abîment parfois dans notre vie de tous les jours. Mais Salomon rappelle qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, je ne sais pas si vous avez eu déjà les eaux desséchées, mais j'ai déjà eu le moral dans les chaussettes. Et ce n'est pas toujours agréable, ni pour mon épouse, ni pour moi-même, ni pour l'église, ni pour le travail, ni pour qui que ce soit, d'avoir le moral dans les chaussettes. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon remède. Alors, nous avons besoin, c'est vrai, de nous encourager les uns les autres. Un dernier verset dans le livre des Proverbes. Proverbe 25, verset 11. Comme une pomme d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Seigneur, avant que j'ouvre la bouche, donne-moi la sagesse de parler. Alors, on ne fait pas toujours ça. Mon père me disait un vieux dicton, même s'il n'était pas dans l'évangile, avant de parler, tourne la langue 7 fois. Vous me connaissez maintenant, j'ai du mal à tourner la langue 7 fois avant de parler. Hein. Le Seigneur m'a fait une langue, des mains, des bras. Je suis d'origine italienne, donc j'ai besoin de m'exprimer avec tout ce corps. Parfois, j'exagère un peu. De la petite sardine du porc qu'on trouve à Marseille, elle devient un saumon parfois, mais c'est dans ma culture, c'est dans ma nature. Vous avez sûrement des paroles dites à propos à un moment donné dans votre existence. Eh bien, la Bible dit que ce sont comme une pomme d'or sur une ciselure d'argent. C'est pas merveilleux ça, de réfléchir avant de parler. Je voudrais terminer cette prédication par une personne dans la Bible qui était encourageante pour l'Église. La Bible l'appelle Barnabas. Vous connaissez Barnabas dans la Bible? Et son nom signifie « fils de la consolation » ou « fils d'exhortation ». Alors, on ne peut pas lire tout dans la Bible parce que ça serait trop long, mais regardez un petit peu ce qui est dit sur Barnabas. Son nom était Joseph. Et les apôtres l'ont changé assez rapidement en Barnabas. C'était une rencontre à un moment donné pour la première fois où nous voyons dans la Bible ce personnage. Il suffit d'aller dans le livre des Actes des apôtres où nous rencontrons pour la première fois ce frère qui va surgir là à une période, je dirais, de crise économique. Et regardez ce qui est dit à un moment donné sur Barnabas. Barnabas, c'est l'histoire de Barnabas se trouve dans Actes chapitre 4, excusez-moi. Actes chapitre 4. Le verset 36. Je dois encore tenir une page. La voilà. Joseph, verset 36 et 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. C'est-à-dire que, pour la première fois, nous rencontrons Barnabas, je vais le mettre dans le fait qu'il était un homme généreux. C'est-à-dire que Dieu, cet homme a investi à un moment donné, et son investissement à un moment donné, il a entendu le problème que l'Église avait dès le départ, c'est-à-dire que l'Église aidait les personnes qui étaient en problème, en difficulté, et il y avait de l'argent qui était récupéré, et cet homme arrive pour la première fois là, dans les environs de Jérusalem, il avait investi, eh bien il n'a pas hésité un instant de vendre une part de sa propriété pour l'apporter pour le Seigneur. Actes chapitre 4, verset 36. Un homme généreux. Ça inspire, n'est-ce pas? Si les apôtres l'ont appelé Barnabas, c'est pas pour rien. Fils d'exhortation, fils de consolation, c'est pas du tout pour rien. Moi, on m'a jamais changé mon prénom quand j'ai accepté Jésus-Christ. Parce que j'aimais tellement mon prénom Nicolas qu'il n'était pas question qu'on me le change. Vous savez, la racine de mon prénom, c'est Victoire. Vous pensez bien que je ne vais pas changer mon prénom. Hein? Imaginez qu'on me donne un autre prénom qui n'a plus du tout rien à voir avec ma personnalité. Maman a tellement pris du temps pour choisir mon prénom. Je me souviendrai toujours l'histoire que maman m'a dit un jour. Mon père a choisi l'aînée, Catherine, donc ma sœur, assez rapidement. C'était le prénom de ma sœur. Mais c'était le prénom de la maman de mon père. Et comme mon père a toujours mis en première en valeur sa maman, il n'était pas question que ma sœur s'appelle un autre nom que Catherine. Il a couru, dès qu'il a su que c'était une fille, il a couru à l'administration sans rien dire à maman, et il a dit, voilà, ma fille va s'appeler Catherine. Et il n'y aura pas de deuxième prénom, parce qu'à l'époque, on le faisait aussi. On mettait un deuxième prénom. Non, il n'y aura que Catherine, et uniquement que Catherine. Le deuxième est arrivé. C'est moi. Mon père a dit à ma mère, débrouille-toi. Donne-lui un prénom, sinon, si tu ne lui donnes pas un prénom, je vis dans le calendrier, et il est né le 1er juillet, donc vous le savez maintenant, je suis né le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est la Saint-Élie. Je me dis, mais heureusement qu'ils n'ont pas appelé Thierry. Ma mère a réfléchi un petit peu, quelques instants. Elle avait un frère qu'elle aimait beaucoup. Elle avait aussi son papa, qui s'appelait Nicolas. Waouh, merci Seigneur. C'est un prénom merveilleux. Mais elle a fait le choix, elle a dit, tu te calmes, mon chéri, tu t'assois sur une chaise, j'ai un prénom pour le deuxième. Et je me suis appelé Nicolas André, donc le prénom de mon papa. Ça tombe bien, tous les deux veulent dire victoire, donc ça me colle bien à ma peau, il n'y a pas de problème. Pour le troisième, pour mon frère. Lui, il est né dans la période du mois de décembre. Vous savez comment ils ont appelé mon frère? Ah, il y a des injustices parfois. Je dirais la vérité. Enfin, son premier prénom, je vous rassure, c'est pas Noël. C'est son deuxième. Son troisième, c'est Vincent. Alors, je révèle rien du tout, c'est dans sa carte d'identité. Si un jour il vient ici, vous pouvez lui dire, oui, c'est vrai, tu as ton deuxième prénom, c'est Noël. Et le troisième, c'est Vincent. Mais le premier, c'est Antoine. Il n'a jamais apprécié ce prénom. Alors maintenant, il me dit au téléphone, « Ouais, arrête de m'appeler Antoine, appelle-moi Tony. » Oh, on aurait vu, c'est à la mode. C'est à la mode. Mais, voyez-vous, ma mère et mon père ont pris du temps pour le troisième. C'est vrai qu'il est né dans une période, le 21 décembre, donc, ça, ils y sont allés dans la facilité pour le deuxième prénom, parce que Noël, c'était facile hein, de le trouver. Mais en attendant, Pour la première, pas de discussion. Pour la deuxième, débrouille-toi tout seul. Pour le troisième, il y a eu un petit peu quelques conversations. Mais pour revenir à mon aspect dans la parole de Dieu, donc un homme généreux. Je pense que si le Seigneur l'a mis dans la Bible, et je suis dans la Bible, Actes chapitre 6, Nicolas, hein, il est dans la Bible, ça me réjouit, ça me autant se réjouir de quelque chose. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. C'était les premiers diacres choisis par l'Église de l'époque. Mais 2000 ans après, on peut se poser la question, mais Seigneur, mais pourquoi tu as choisi cet homme à un moment donné? Et il se retrouve dans la parole de Dieu comme, vous savez, cette personne qui, à un moment donné, a mis le parfum à grand prix. On se dit, mais 2000 ans après, on racontera encore cette histoire. Mais Barnabas, c'était une personne qui était une personne généreuse. Et la Bible a besoin de nous le rappeler, cet aspect de la générosité. Je suis reconnaissant à 200% depuis que je suis rentré dans le ministère, que le Seigneur a mis sur mon chemin des donateurs. C'est vrai que l'Église de Marolles me soutient, et j'en suis reconnaissant. Mais il n'y a pas que l'Église de Marolles. Il y a des gens, je le dis souvent, il y a une église en Amérique qui me soutient, il y a des donateurs individuellement, des églises individuellement qui me soutiennent. Je suis reconnaissant, sinon je ne pourrais pas manifester mon ministère ici à Marolles-sur-Seine. Je suis toujours reconnaissant de ces donateurs. Et cela me fait réfléchir parfois à cet aspect de donation, de générosité que le Seigneur nous demande au travers de l'Église. Mais rappelez-vous Actes chapitre 20, verset 35. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes dans une société qui aime bien recevoir, mais elle a du mal à donner. Et la Bible nous dit tout le contraire. Soyez des hommes et des femmes généreux et généreuses. Inspirez-vous de Barnabas. Est-ce que vous devez vendre un terrain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur nous demande d'agir avec un esprit de générosité. Et ça, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, c'est un homme qui aimait les autres. Barnabas nous dit la parole de Dieu que personne voulait Saul. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, personne ne voulait Paul. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les disciples pensaient que Paul cachait le fait qu'il était converti et qu'il allait rentrer dans l'église et allait persécuter l'église. Déjà, l'église était déjà persécutée à un moment donné, mais certains apôtres avaient cette pensée là dans l'esprit. Mais non, on ne peut pas accueillir Paul seul, c'est pas possible. On ne peut pas accueillir cet homme, il va nous persécuter. Il va nous persécuter. Et grâce à Barnabas, où à un moment donné, Barnabas va prendre Paul et va l'apporter aux apôtres, et il va le dire à un moment donné, dans Actes chapitre 9, verset 26, « Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. » Et le texte nous montre qu'il a fallu que Barnabas vienne à un moment donné, donner le témoignage que le fait, mais lui, il est réellement converti, il prêche Jésus-Christ, je l'ai vu de mes yeux, vu, il annonce bien Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a changé sur la route de Damas, miracle. Maintenant vous pouvez l'accueillir, et il a été accueilli par les apôtres par la suite. Donc une personne qui aime les autres. Vous savez, on a du mal avec cette affaire de savoir, de dire, est-ce que tu es dans l'Évangile ou est-ce que tu n'es pas dans l'Évangile? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu ne crois pas? Mais le Seigneur nous demande d'avoir tout simplement un esprit qui soit développé. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il est en Jésus-Christ, il n'aura pas de compte à me rendre dans le ciel. Je voudrais quand même vous le dire. Il n'aura pas de compte à rendre à l'église de Marolles-sur-Seine. Il aura des comptes à rendre uniquement à Jésus-Christ et à Dieu. S'il est un enfant de Dieu, s'il dit, s'il témoigne qu'il est un enfant de Dieu, nous devons l'accueillir comme tel. Et nous devons le prendre, l'exhorter, même l'encourager au sein de l'Église. C'est ça notre cœur. C'est comme ça que le Seigneur nous a accueillis. Et c'est comme ça que le Seigneur veut continuer à accueillir ceux qui se prétendent en Jésus-Christ. Maintenant, est-ce un faux? Est-ce un vrai? Est-ce qu'il est ni figue ni raisin? Non, non. C'est sa responsabilité avec le Seigneur. Un jour, chacun d'entre vous auront à rendre à Dieu. Vous allez vous présenter devant le trône de la grâce. Il n'y aura plus votre cher et tendre chéri ou votre cher et tendre époux à côté de vous pour dire c'est à cause de lui ou c'est à cause d'elle que tout est arrivé. Vous allez vous présenter devant le Seigneur et le Seigneur va vous dire tout simplement qu'est-ce que tu as fait pour moi ici-bas sur cette terre. Qu'as-tu fait pour moi? Et vous allez être obligé de lui répondre hein, parce que votre langue dans le ciel vous l'aurez. Si vous vous posez encore des questions pour d'autres choses, dans le ciel votre langue vous l'aurez encore. Et il va falloir répondre au Seigneur à un moment donné de ce que vous aurez fait ici-bas sur cette terre. Donc, ayons un esprit donné l'autre de tout notre cœur. C'est ça, s'encourager. Il suffit de lire 1 Corinthiens chapitre 13 pour nous rappeler que l'amour, c'est vraiment quelque chose de grandiose. Elle excuse tout, elle croit tout. Hein, si simplement on mettait en pratique ce 1 Corinthiens chapitre 13 dans notre vie, ça changerait bien des situations. Et puis, le dernier, et ça sera le dernier, c'est un chrétien qui est impartial. Je m'explique. La raison importante faite par Barnabas est un réel soutien par rapport aux personnes qui avaient des préjugés. Alors, une marque ou une banque a fait à un moment donné une pub sur les préjugés. Je ne suis pas là, on ne m'a pas payé pour parler des préjugés de cette banque qui vous donne toutes sortes d'idées qu'on a. Mais combien nous aussi on a des préjugés dans notre vie chrétienne sur telle ou telle personne, telle ou telle situation. Les juifs de l'époque allaient évangéliser uniquement que les juifs. Uniquement que les juifs. C'est-à-dire, une fois qu'ils avaient accepté Jésus, ils allaient uniquement auprès des juifs. Et le texte nous dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que Barnabas et d'autres personnes vont prendre à cœur le fait d'aller voir d'autres personnes, donc les gentils, ceux qui ne sont pas juifs. Et voici ce qui est dit. S'ensuivre à Phénicie, à Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux juifs, ça c'est pour les chrétiens, les premiers chrétiens. Mais voilà, il y a le verset 20 dans le chapitre 11 qui nous dit, et c'est par la plume de Luc qui dit ceci, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, juifs grecs comme Barnabas, se mirent à prêcher aussi aux Grecs et leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. C'est quelque chose qui a révolutionné l'Église. Et même Pierre a dû, le Seigneur a dû venir à un moment donné, lui tirer les oreilles au travers d'un songe. Il a dû lui rappeler, mais qui tu es toi pour dire ce qui est pur et ce qui est impur? Et Pierre, le Seigneur lui a rappelé, il a dû tirer les oreilles un petit peu fort, le Seigneur, pour lui dire, mais oui, je dois aller aussi vers les gentils. Je ne vais plus mettre ces barrières, Paul. Et Pierre a eu une confrontation à un moment donné parce que Pierre ne voulait pas manger avec les juifs, avec les croyants non juifs, pardon. Voyez-vous, il y a parfois, on a des préjugés en tant que chrétien et le Seigneur est obligé de nous le rappeler constamment dans notre vie chrétienne. Mais pour Barnabas, lui, à un moment donné, l'Église va se poser la question, c'est qui qu'on va envoyer? Barnabas. Lui, c'est un fidèle, il est bien, il est plein du Saint-Esprit et de foi. C'est lui qu'on va envoyer pour encourager l'Église. Et il y est allé,
La Bible dit que c'est lui qui est allé encourager l'Église parce que son nom c'était fils de la consolation, fils de l'exhortation. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a marqué la période de l'Église parce que grâce à cet homme, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. La Bible ne dit pas comment ça s'est terminé cette affaire. Mais à un moment donné, Paul et Barnabas vont se séparer. Qu'importe. Ils ont travaillé un temps ensemble pour la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui doit rester dans notre esprit et c'est ça qui doit nous rester à nous aussi dans notre esprit. Je vais terminer par ceci. Est-ce que vous êtes un soutien comme Barnabas? Parce que quelque part, vous devez être des fils et des filles de consolation, des fils et des filles d'exhortation. Alors c'est à la mode. Alors parlons-en de ces trucs à la mode. WhatsApp, Facebook, Messenger, les emails et toutes sortes de choses qui puissent exister. Vous êtes tous comme moi, n'est-ce pas? Certains, le téléphone, quand vous êtes rentré, vous ne l'avez pas mis en mode avion. Pourtant, c'était le mode avion que vous devriez mettre, hein, quand vous êtes rentré ici dans l'église, pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Mais quelque part, tous ces outils aujourd'hui, bien, il y a des bons outils, et puis il y en a de mauvais. Mais je me dis, des fois, mon épouse, l'adorable Gabrielle, vient me voir et me dit, regarde ce qu'elle a écrit, telle personne dans ma rose dame. Alors bien sûr que je lis, ben, il y a des choses intéressantes. Mesdames, vous encouragez les uns les autres, c'est formidable, par un verset que le Seigneur vous a inspiré. C'est incroyable, n'est-ce pas, Wazaf? Il y a 10 ans en arrière, Wazaf n'existait pas. Et peut-être que Wazaf aura un temps de vie. J'en sais rien. Ce que Dieu va mettre en nouveauté. Parce que, vous savez, le monde, c'est, ça va, ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bonnes pendant un temps et puis d'autres, ça part. Ah, j'ai oublié. Twitter. Ça existe. Instagram. Ça existe aussi. Vous avez d'autres sites. Ça existe. Je me dis, mais quels sont le temps que nous mettions dans ces trucs que nous avons, dans ce téléphone? Je me dis, mais est-ce que c'est pas mieux d'avoir un vis-à-vis, d'avoir une personne en face de moi et qui, je dis à cette personne, écoute, je vais laisser quelques instants mon téléphone et je vais prier pour toi, je vais prendre du temps à prier pour toi. Parce que si vous dites à quelqu'un sur tous ces sites que je viens de vous citer, que vous prenez le temps de prier pour elle, mais est-ce que vous le faites réellement? Est-ce que, je ne vais pas le faire parce qu'il va s'éteindre mon téléphone, mais est-ce que vous prenez le téléphone, bien, terminé, quelques instants, j'ai promis à quelqu'un, je l'ai encouragé, je l'ai exhorté, mais j'ai promis à cette personne de passer du temps pour elle dans la prière. Ah oui, j'ai oublié d'envoyer un SMS à quelqu'un d'autre, j'ai oublié d'envoyer une petite photo à quelqu'un. Il y a des photos, il vaut mieux les garder. Quand Christian m'a montré sa balafre derrière la tête, j'ai dit, non mon frère, tu peux la garder celle-là. Il n'y a pas besoin de me la montrer, mais... Voyez-vous, il y a des photos, je me dis, il n'y a même pas besoin de les présenter ou de les publiciter ou de les mettre en avant. Mais c'est à la mode aujourd'hui. On aime bien, n'est-ce pas? On aime bien. Eh bien, ne soyons pas comme le monde. Mais prenons du temps pour nous encourager les uns les autres. Pour être des enfants de la consolation. D'être des enfants de l'exhortation comme Barnabas. Soyons des hommes et des femmes qui soyons généreux dans notre cœur. Alors la générosité, je vous rassure, hein, c'est pas uniquement par le portefeuille. Hein. Ça peut être du temps que vous mettez à part pour un frère ou pour une sœur. Hein. C'est ça la générosité de cœur. Hein. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, hein, la Bible dit. C'est pas uniquement une histoire d'argent. Que nous puissions aussi prendre le temps d'aimer les autres, d'aimer les personnes que le Seigneur nous entoure. On a du mal, vous savez, et même, moi je me souviens, je vais terminer avec ça, je me souviens quand j'ai rencontré Gabriel pour la première fois, quand on s'est parlé, quand on s'est dit notre amour mutuel, ouais, on avait du mal à un moment de dire, mais c'est vraiment elle, hein. Est-ce que ça va être cette personne qui va me suivre 365 jours plus une année bisestile, donc 366 jours à un moment donné dans mon existence? Il y avait des doutes dans mon cœur. Mais je dis, bon, je vous rassure, heureusement que j'ai pris le temps d'analyser et de se dire, mais oui, c'est bien elle. Si le Seigneur m'a placé cette personne sur mon chemin, c'est bien la personne que le Seigneur veut pour moi. Ça fait 20 ans que je suis marié. Aucun regret. Elle est là, je lui dis régulièrement. Je lui dis que je l'aime régulièrement. Elle me demande si je l'aime régulièrement. Je dois lui répondre, mais oui! Tu t'imagines si demain je dirais, allez, par un instant de folie, parce que j'ai mon amour dans les chaussettes, mais non, je t'aime pas, ma chérie. Mais vous imaginez un instant ce qui va se passer dans mon foyer. Bon, allez, va au bureau, tu reviendras après, tu discuteras avec moi après. Mais voyez-vous, il y a des choses qui doivent se faire parce que nous devons être des enfants de la consolation, des enfants d'exhortation. Alors que nous puissions, en tant qu'Église, l'être réellement. Si nous disons à quelqu'un ou si nous faisons des promesses au Seigneur, c'est au Seigneur que vous faites ces promesses-là. C'est au Seigneur que vous avez fait cette promesse. Alors que nous puissions, bien sûr, être des enfants de la consolation et des enfants de l'exhortation. Et il n'y a pas besoin de WhatsApp, Facebook, Messenger, les emails, les Instagram, et tout ce que vous voulez pour partager de la communion fraternelle avec un frère et une sœur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai peur de verser pour vous cette semaine. Je l'ai oublié, ça m'arrive parfois d'oublier. Alors que vous puissiez tout simplement aller chercher un verset ou un passage durant la semaine et de vous exhorter. Et s'il vous a parlé, n'oubliez pas tous les sites que je vous ai dit et envoyez-moi une exhortation par un verset de la Bible que j'ai bien sûr, hein. J'ai WhatsApp, j'ai Facebook, j'ai d'autres passages, j'ai d'autres sites dans ma... Ne m'envoyez pas des choses que je n'ai pas. Instagram, je ne l'ai pas. Twitter, je n'ai pas. Donc, ne m'envoyez pas un message par ce biais-là. Mais un jour, on m'a dit gentiment, tu perds beaucoup en n'ayant pas ces sites. Je sais ce que je gagne en n'ayant pas ces sites, mais je sais aussi que le temps m'est compté parfois et que je n'ai pas besoin d'avoir tous ces sites. Je vais prier, si vous voulez bien, juste avant de se séparer.